Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Au matin du plus grand événement planétaire de l'année, c'est la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui en Amérique. Nous serons dans ce journal à Mexico, à quelques heures du match d'ouverture, à Boston où les Bleus sont arrivés dans la soirée et à Los Angeles aussi où les Américains commencent, vous l'entendrez, à se prêter au jeu. On va détailler dans ce journal ce qui attend désormais Patrick Bruel, mis en examen dans 4 affaires hier soir et qui a échappé à la détention. Et nous irons aussi à Castres où le nouveau maire RN de cette ville déprogramme une pièce de théâtre racontant l'histoire d'un migrant et vous verrez que ça fait polémique.
Et c'est donc parti pour 5 semaines de compétition.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors, la musique que vous entendez là, eh bien c'est celle que vous allez entendre tout au long de la 23e Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui. La première dans 3 pays, la première à 48 équipes. On va vivre 104 matchs jusqu'au 19 juillet sur RMC en mode 100% Coupe du Monde de 18h jusqu'à 5h du matin. Le premier match, c'est donc aujourd'hui, ce soir 21h entre le Mexique et l'Afrique du Sud dans la foulée de la cérémonie d'ouverture au gigantesque Stade Azteca de Mexico. Jean-Louis Tour, vous êtes déjà là-bas en direct ce matin pour RMC. Vous avez eu la chance d'entrer dans ce stade avant que ça commence.
Oui, et c'est un stade mythique qui a su conserver son authenticité. C'est ce qui frappe tout de suite, au contraire d'un Maracana à Rio où la modernité a rendu le stade trop froid. Eh bien, l'Azteca, c'est à la fois des câbles qui pendent à l'extérieur, donnant une impression de vétusté, mais surtout un vertige quand on y grimpe avec des tribunes en pente raide et une impression de cuvette jusqu'à la pelouse abaissée de 9 mètres par rapport au sol. L'atmosphère est là, le poids de l'histoire et ces 2 Coupes du Monde, 70-86, est rappelé en permanence dans les couloirs avec des photos de Maradona, de Pelé ou des chanteurs qui se sont produits à l'Azteca. Un écrin de rêve donc pour la cérémonie d'ouverture, mais inaccessible pour beaucoup de Mexicains qui ne participeront pas au remplissage des 80 000 places disponibles. La faute à des prix exorbitants, jusqu'à 6 000 euros pour les derniers billets dans un pays où le salaire moyen est autour de 800 euros. Ça passe mal. Ajoutez à cela le contexte social tendu avec des manifestations d'enseignants qui pourraient perturber la journée aujourd'hui. Et vous avez ce climat un peu particulier à Mexico ces dernières heures.
Et que vous nous racontez bien, Jean-Louis Tour, on vous retrouvera ce soir en direct sur RMC à 21h pour ce match d'ouverture. Le deuxième match sera la nuit prochaine, 4h du matin, entre la Corée du Sud et la République tchèque. En attendant, les Bleus, qui eux joueront mardi prochain, ils sont bien arrivés, tiens, dans la soirée, alors que QG de Boston, où des centaines de fans les attendaient devant leur hôtel.
Un accueil très chaleureux, beaucoup de monde, encore plus qu'en mars.
Ça fait plaisir, ça donne vraiment envie de débuter la compétition, et si c'est comme ça à chaque fois et dans tous les stades, ce sera bien pour nous.
C'est Adrien Rabiot, là, que vous venez d'entendre à Boston. On est vraiment partout sur RMC, hein, 40 personnes sur place. Nicolas Pelletier, vous nous dites depuis Los Angeles que les Bleus sont vus comme les favoris à la victoire finale.
Oui, sur la plage de Santa Monica, Guy Dor, supporter allemand, annonce déjà le prochain vainqueur de la Coupe du Monde.
Je pense que la France va remporter cette Coupe du Monde 2026.
À ses côtés, un fan du Portugal, Victor, a surtout peur d'un homme, Kylian Mbappé.
C'est le meilleur joueur de la France, il est vraiment bon. Lors de la dernière Coupe du Monde, il a été excellent en 2018. Le titre était aussi en grande partie grâce à lui. Il répond aux attentes.
L'attaque tricolore fait saliver les supporters étrangers et les hommes de Didier Deschamps se présentent donc en ultra favoris de la compétition. Victor, supporter brésilien.
La France est la meilleure équipe actuellement. Mais attention, le Brésil a 5 étoiles sur le maillot. Stars.
Maillot de l'Espagne sur le dos, Rulio prévient les Français.
La France est une belle équipe, favorite comme l'Espagne, mais il y a une différence entre l'Espagne et la France. Les Bleus ont beaucoup de noms alors que l'Espagne est une famille, il faut penser à ça.
Et Rulio a vu juste, selon les bookmakers, l'Espagne et la France sont les 2 grandes nations favorites pour soulever la Coupe du Monde le 19 juillet à New York.
Et alors cette Coupe du Monde là qui commence est aussi très particulière puisqu'elle est organisée par un pays en guerre, à savoir les États-Unis, Donald Trump, qui ont bombardé l'Iran pour la 2e nuit de suite près du détroit d'Ormuz, en dépit du cessez-le-feu et en réponse, l'Iran dit avoir bloqué le détroit d'Ormuz. Il est 8h05 ce matin et Patrick Bruel se réveille chez lui, à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, son domicile, qu'il a regagné dans la nuit après avoir été mis en examen donc pour viol, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement. Donc, 4 affaires, c'était dans la soirée, la plus vieille en 2008, la plus récente en 2019. Il a donc échappé à la détention. Pierre Bazin, du service police-justice à RMC, en direct ce matin. Question, c'est quoi la suite maintenant pour lui?
Eh bien, concernant les 4 faits pour lesquels il est mis en examen, les investigations vont se poursuivre avant qu'il soit réinterrogé. Des actes d'enquête supplémentaires vont être demandés, notamment par les avocats du chanteur qui ont d'ores et déjà apporté de nouvelles pièces au dossier, notamment des copies de SMS de Patrick Bruel, ainsi que des attestations de ses proches. Les conseils du chanteur vont donc consolider sa défense. Et en parallèle, les avocats des plaignants ont annoncé se battre pour que Patrick Bruel soit mis en examen dans le cadre d'autres plaintes, notamment les 4 pour lesquelles il a été placé hier sous le statut plus clément de témoin assisté. Et dans le même temps, il y aura d'autres rendez-vous judiciaires à venir pour le chanteur de 67 ans, puisque de nouvelles plaintes ont été déposées récemment, où vont l'être des accusations, là encore, de crimes ou de délits de nature sexuelle.
Et alors, en attendant, Patrick Bruel est soumis à un contrôle judiciaire bien défini.
Oui, Patrick Bruel va d'abord devoir remettre à la justice une importante caution de 500 000 euros, ainsi que son passeport, interdiction pour lui de quitter le territoire français, pas de contact non plus avec les plaignantes ou leur famille, et puis le chanteur est soumis à des soins psychologiques. Enfin, depuis hier, Patrick Bruel n'a plus le droit de fréquenter les salons de massage, puisqu'on le rappelle, parmi les plaignantes, il y a plusieurs masseuses qui ont accusé le chanteur d'agression sexuelle dans le cadre de leur exercice professionnel. Dernière précision, contrairement à Jean-Luc Lahaye, par exemple, accusé de viol sur mineur en 2021, Patrick Bruel, lui, n'est pas interdit de monter sur scène dans le cadre de ce contrôle judiciaire.
C'est la confiance dans nos institutions qui se pose, dit Emmanuel Macron à propos de l'affaire Liana à la veille des obsèques de la jeune fille de 11 ans demain dans le Gers, dans la plus stricte intimité à la demande de ses parents. Ça, c'est la polémique du moment, ça se passe à Castres, près de Toulouse, je vous le disais, ville qui a basculé RN aux dernières municipales et où le nouveau maire de cette ville a décidé de déprogrammer une pièce de théâtre prévue dans quelques mois et racontant l'histoire d'un réfugié de la jungle de Calais. Cette pièce avait été validée par l'ancienne municipalité de droite, mais le nouveau maire RN n'en veut pas, nous explique Sonia Gobry.
C'est un choix politique assumé par Florian Azéma, le maire Rassemblement National de Castres.
Cette pièce, forcément, elle ne correspondait pas à ce que moi j'avais défendu dans le cadre de la campagne municipale. Et je ne souhaite pas que l'argent public soit dépensé dans ce qui fait la promotion de l'immigration illégale.
Le metteur en scène Alexis Michalik lui répond que chacun est libre d'aimer ou pas la pièce, mais que chacun devrait aussi être libre de la voir.
Quand un élu se met à supprimer ou déprogrammer des spectacles parce qu'ils vont à l'encontre de sa politique personnelle, c'est un pas vers le totalitarisme. Et non pas vers la démocratie.
La déprogrammation de cette pièce fait aussi réagir le monde politique. Indignation du sénateur communiste Yann Brossat.
L'extrême droite passe son temps à faire croire qu'elle s'est dédiabolisée. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas changé et que dès qu'on leur confie un petit pan de pouvoir, ils en profitent pour faire de la censure et pour promouvoir des valeurs réactionnaires.
Qu'importe la polémique, plusieurs cadres du RN soutiennent publiquement le maire de Castres. Bravo, lance l'un d'eux. Mais un député influent met en garde à un an de la présidentielle. Attention à ne pas nuire à la réussite collective.
Allez, on a une pensée ce matin pour les élèves de première qui commencent le baccalauréat ce matin avec l'épreuve anticipée de français. Et une pensée aussi pour les fans de NBA qui ont suivi, peut-être bien sur RMC, d'ailleurs notre radio digitale, cette nuit, la quatrième manche de la finale NBA. Scénario incroyable, San Antonio qui avait à un moment une trentaine de points d'avance, mais c'est New York qui a gagné. Ça s'est joué dans les dernières secondes, 107 à 106. New York qui mène 3-1 dans cette finale. C'est mal parti pour les Spurs de Wemby.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Emmanuel, la société d'Elon Musk, SpaceX, entre en bourse demain à New York. Ce sera la plus grande introduction en bourse de toute l'histoire.
Et oui, SpaceX, c'est un ensemble qui regroupe les lanceurs spatiaux Starship et Falcon 9, les satellites Starlink, le réseau social X et toute la branche intelligence artificielle de l'empire Musk, avec Grok notamment. Il sera introduit demain sur le Nasdaq, c'est la bourse des valeurs technologiques américaines, ce qui permettra à Elon Musk de lever 75 à 80 milliards d'euros. Songez que le précédent record d'introduction en bourse, c'était en 2019, c'était la société pétrolière saoudienne Aramco pour 29 milliards d'euros. Donc on est au moins à 3 fois plus le chiffre de la démesure. Rien n'est normal quand on parle d'Elon Musk.
Et nous en France, on fait quoi? Est-ce qu'on peut en acheter d'abord? Est-ce que ça vaut le coup?
Alors les analystes sont prudents, disent l'an dernier, SpaceX a vu sa croissance ralentir, ça a perdu près de 5 milliards de dollars, il n'y a que Starlink pour le moment, les fameux satellites qui gagnent de l'argent. Et donc la plupart d'entre eux jugent la valorisation du groupe très excessive. Sauf sauf Apolline, que pour beaucoup de petits porteurs, acheter SpaceX, ça n'est pas seulement faire un investissement, c'est faire un acte de foi dans la vision d'Elon Musk. Aucune autre entreprise ne parle de coloniser la Lune ou Mars ou de créer des data centers dans l'espace comme le fait SpaceX. Et donc SpaceX est à ce point sûr de son fait qu'il a décidé d'attribuer quasiment un tiers des actions nouvelles aux investisseurs individuels, ce qui est une proportion très inhabituelle. Alors oui, quand on est en France, on peut en acheter hein, sur la plupart des plateformes, Saxo, Trade Republic, Boursorama, Fortuneo, etc. Mais sachez que pour le moment, vous achetez plus du rêve que du rendement.
Emmanuel, le Chypre, les résultats aussi des chiffres de l'énergie, ça monte ou ça descend?
Ouais, c'est plutôt stable. Hein. Le gazole, toujours 2,02. On a du mal à descendre plus bas. Le sans-plomb 95, lui, continue gentiment sa petite décrue, un peu moins de 1 centime par jour. On est à 1,96. Le pétrole, toujours dans son étroite fourchette, 90-95 $ le baril depuis une bonne quinzaine de jours. Et le gaz, on est toujours à 50 € le mégawattheure. C'est stable.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h11, restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, il y a Arnaud Demanche qui va venir nous faire rire avec l'actualité, évidemment. À 8h30, le face-à-face, une invitée exceptionnelle. Elle s'exprime très rarement. Elle est l'une des plus hautes magistrates de France, la procureure générale près la cour d'appel de Paris après l'affaire Liana. Peut-on encore avoir confiance dans la justice? Comment restaurer le lien? Quelle responsabilité aussi des magistrats? Je l'interroge sur RMC et sur BFM TV. Juste après, 8h50, ce sera vous, Mathieu, avec évidemment le début de la Coupe du Monde.
Mais oui, comment suivre les matchs qui auront lieu en pleine nuit? On a posé la question aux fans et puis les Bleus sont arrivés hier aux États-Unis. On vous donne tous les détails, toutes les dernières infos.
La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio officielle. A tout de suite, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline, bonjour les amis, allez, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est la teuf, c'est le début de la Coupe du Monde. Ça y est, enfin, on peut tous oublier nos soucis du quotidien, nos galères de taf, l'actu, tout ça, et se réunir tous ensemble, les Français, unis pour critiquer Mbappé. Mais défends, merde ! Je suis sûr qu'il fait même pas ses 10 000 pas par jour. Au prix où t'es payé ! Et puis à un moment, il va marquer, on va tous être là. Oh, je l'ai toujours soutenu.
Exactement.
Alors j'ai lu que le maire de Clermont-Ferrand a décrété un couvre-feu pendant la Coupe du Monde. Un couvre-feu à Clermont-Ferrand, où tout est déjà fermé à 19h.
Oui.
On va se coucher à 14h30. Et la Coupe du Monde, non mais vraiment c'est cool. Tout le monde aime ça en plus. Apolline, à chaque match des Bleus, elle est en jean, t-shirt noué, pieds nus, debout sur son canapé, avec du bleu, blanc, rouge peint sur les joues, à crier « Allez Rabiot ! Allez Rabiot !
Mais maman, c'est Tchouaméni.
Oh, t'arrêtes, toi! Va réviser ton bac !» C'est son bac aujourd'hui, on l'embrasse.
Oui, on l'embrasse.
Et après, elle continue à crier « Allez les Bleus ! Allez, Théo Fernandez !» Parce que Apolline, c'est Jacques Chirac en 98. Elle fait semblant de connaître les noms des joueurs. Mais par contre, alors, au moins, elle sait qui est ministre des Relations avec le Parlement. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Hein, Apolline,
Panifou.
C'est Panifou.
Panifou,
Panifou. Voilà, pop, pop, pop. Mais c'est pour ça qu'elle présente une matinale info. Voilà, c'est la plus forte. Et le ministre des Postes et Télécommunications du gouvernement Raymond Barre en 76?
Norbert Séguin.
Pop, pop, pop. Tu vois, heureusement que c'est marqué sur la feuille. Ouais, tu vois, elle confond Upamecano avec Platini, mais sur la politique, hein, Apo, elle a passé tant de temps à encourager ses ados pendant leur match de foot à eux. J'imagine que ça vous fait plaisir de voir enfin un peu de beau jeu. Hein, ça va être sympa.
C'est une Coupe du Monde un peu spéciale pour la première fois. Il y a 48 pays participants.
Oui, du coup, il y a plein de petits pays. Les commentateurs de RMC, ils vont galérer sur certains matchs. Hein. Va transmettre de la passion avec Canada, Qatar.
Et Daniel, on est ensemble pour vous faire vivre ce choc entre l'ogre qatari et les favoris de ce groupe, les Canadiens.
Bon, ils sont favoris parce que c'est un groupe de merde.
Oh Daniel, on peut pas dire ça, Daniel. Une affiche Qatar Canada, on voit pas ça tous les jours.
Ouais, bah encore heureux.
Oh Daniel, on peut pas dire ça, Daniel. Et allez, c'est parti. Première action là avec cet attaquant qatari qui... Oula, c'est très créatif ça. C'est original. Regarde Daniel, ils font semblant de shooter dans le ballon pendant que deux défenseurs canadiens se sont percutés l'un l'autre. C'est sans doute une combinaison tactique typiquement locale.
Mais non, c'est juste qu'ils jouent comme des merdes. Regarde le ralenti.
C'est pas un ralenti, Daniel, c'est le vrai match, c'est Canada-Qatar. En tout cas, le coach canadien a l'air un peu perdu et il tend des balais aux joueurs. Ah, on me dit en fait que c'est dans l'oreillette que c'est l'équipe de curling du Canada. Ils n'avaient pas d'équipe de foot, ils se sont démerdés avec ce qu'ils avaient sous la main.
Voilà. Putain, on aurait dû repêcher les Italiens.
Oh, voilà. Ils jouent encore moins bien que ça, Daniel.
Oh, Gilbert, tu peux pas dire ça. Enfin, si, tu peux, Gilbert, tu peux.
Patrick Bruel a été remis en liberté hier soir.
Oui, alors dit comme ça, ça fait un petit peu le T-Rex s'est échappé de Jurassic Park.
Attention, il est en liberté.
Alors, il a interdiction de fréquenter un salon de massage. Ça m'a fait rigoler. C'est un peu comme si on interdisait à Dupont de Ligonnès de rentrer dans un Leroy Merlin. Mais je trouve ça fou, cette histoire. Vous savez, moi, je m'en serais jamais douté, hein, pour Bruel. Il avait l'air si gentil. On avait déjà été surpris par l'abbé Pierre, Nicolas Hulot. Ouais. Putain, Michel Drucker, il doit se planquer derrière son canapé rouge.
Mais pourquoi Michel Drucker? Le pauvre, il a rien demandé.
Il a rien fait. C'est pas moi. Moi, j'aime que les chiens. Ouais, bah justement, je suis sûr qu'il y a des vidéos qui traînent où tu tartines entièrement avec de la confiture, hein, Michel, en regardant 30 millions d'années. Mabrouk, regarde papa, il s'est mis de la confiture sur les tétons. Oh, c'est dégoûtant, en plein petit-déj. Et Thomas Pesquet?
Ah bah oui, tiens donc. Ah oui, c'est vrai.
Est-ce
ça.
Est-ce que quelqu'un a fouillé son disque dur à Thomas Pesquet? Je suis sûr qu'il y a des vidéos ignobles avec des extraterrestres poilus, plein de tentacules partout et lui, tout nu au milieu. Oh oui, visiteur de l'univers, refais-moi ton truc avec la langue. Oh oui, la denrée continue. Oh oui. Oh, Alf, viens te joindre à nous, Alf.
Willy, sors-moi de là. Je suis coincé avec Thomas Pesquet tout nu et les chats. Willy.
Oh, Berk. Berk. Élise, elle est...
Il est féministe en plus, Thomas Pesquet. C'est le tranquille.
Il a toutes les qualités. On sait trop.
On sait trop. Allez, merci Arnaud. On vous retrouve non seulement tous les jours en direct sur RMC, mais à tout moment en podcast et partout en France en tournée, à Toulouse, à Montpellier, à Lagny-sur-Marne. Tiens, vous ne l'aviez pas fait, Lagny-sur-Marne. Nice, Gaillac, Le Garric, au Morières-les-Avignon, un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h20, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est l'une des plus hautes magistrates de France. Et justement, Nando nous appelle du Val-de-Marne. Nando, vous êtes en direct avec nous, chauffeur poids lourd. Bonjour Nando.
Bonjour Apolline, comment ça va?
Ça va pas mal. Alors, je m'apprête à interroger cette haute magistrate et je vois ces sondages, la confiance dans la justice de plus en plus fragile. Vous en pensez quoi, vous, Nando?
J'en pense que c'est... On vit un moment très, très crucial dans notre société. C'est un grand changement qui va arriver. Moi, j'ai participé à l'émission du Forum lundi.
Oui.
Et j'ai vu beaucoup de colère, mais je pense que la colère est mauvaise conseillère quand même.
Et donc, il faut faire quoi? Il faut se calmer.
On a besoin de la justice. Il faut calmer le jeu, on va dire, au jour de Coupe du Monde. Et il faut faire confiance à la justice. On a besoin de la justice pour vivre en société. On n'a pas le choix. Ça ne peut pas être le coup de vendetta, de vengeance personnelle. Une société ne peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends, je suis père d'une petite fille. Je ne sais pas ce que je ferais s'il arrive quoi que ce soit à ma fille. Mais c'est pas possible. On peut pas faire justice soi-même et on sera tous la cause de l'effondrement d'une société si ça arrive. C'est pas possible.
Un véritable cri du cœur, Nando, ce matin, pour justement cette justice qui nous relie les uns les autres. Merci beaucoup, Nando. Je signale aussi, et je voulais revenir là-dessus, l'immense dignité des familles, parce que certes, la colère, on l'entend parfaitement, et en même temps, quand on entend la famille de Liana, quand on entend la famille d'Elias, quand on entend ces familles-là qui ont perdu leurs enfants, je trouve qu'ils sont d'une dignité. Ils incarnent aussi exactement ce que vous disiez, Nando. Merci à vous. Il est 8h21, tout de suite le face-à-face. La procureure générale, près la cour d'appel de Paris, répond à mes questions. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
La mise en examen de Patrick Bruel pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement dans 4 affaires à Neuilly, Bruxelles, Ajaccio, Perpignan, la plus vieille en 2008, la plus récente en 2019. Le chanteur de 67 ans échappe à la détention, que demandait pourtant le parquet de Nanterre, mais il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction notamment de quitter le territoire français. C'est la confiance dans nos institutions qui se pose, reconnaît Emmanuel Macron à propos de l'affaire Liana, à la veille des obsèques de la jeune fille de 11 ans qui auront lieu demain dans le Gers, dans la plus stricte intimité à la demande de ses parents. Une nouvelle nuit de bombardement américain en Iran, c'est la deuxième de suite, en dépit du cessez-le-feu. L'Iran dit répliquer en fermant le détroit d'Ormuz, ce que dément l'armée américaine. Contexte de violence, tiens, au Mexique, où 5 policiers ont été tués cette nuit, 5 autres blessés dans une région sous la coupe des cartels de drogue. Voilà dans quel contexte géopolitique commence la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, ça va durer 5 semaines en Amérique. C'est la première à 48 équipes. La première organisée aussi dans 3 pays différents. C'est à Mexico qu'aura lieu le match d'ouverture ce soir à 21h. Vous le vivrez sur RMC entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Dans la foulée de la cérémonie d'ouverture au stade Azteca de Mexico. Stade qui avait déjà accueilli les cérémonies d'ouverture des Coupes du Monde 70 et 86, celle de la main de Dieu. Les Bleus sont bien arrivés dans la soirée à leur hôtel, leur QG à Boston, aux États-Unis, accueillis par plusieurs centaines de fans avant de faire leur entrée dans la compétition. Ce sera mardi face au Sénégal. Tout ça, vous le vivrez sur RMC. Première Coupe du Monde à 48 équipes avec 104 matchs à vivre sur RMC d'ici le 19 juillet. La météo pour aujourd'hui, c'est une journée qui débute sous de belles éclaircies, mais très rapidement le ciel va se couvrir au nord de la Loire avec quelques pluies sur la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et des averses dans le nord-est. Au sud d'une ligne Nantes-Besançon, le soleil s'imposera largement cet après-midi avec toujours du vent qui est fort près de la Méditerranée, ce qui renforce d'ailleurs les risques de feux de forêt. Les températures, elles remontent légèrement cet après-midi. Il fera entre 16 et 22 au nord et jusqu'à 29 degrés dans le sud.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, le face-à-face. Ne manquez pas mon invité, c'est l'une des plus hautes magistrates de France, la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequeo. Elle répondra évidemment à mes questions sur la responsabilité des juges, sur le fiasco de la justice après la mort de la petite Liana. A tout de suite sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28, vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Suzanne Lequeo. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'une des plus hautes magistrates de France. Vous êtes aujourd'hui procureure générale près la Cour d'appel de Paris. Beaucoup de questions à vous poser ce matin. La première, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la justice de notre pays?
Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais avoir une pensée pour les parents de Liana et pour les proches de sa famille. Je suis, comme tous les Français, bouleversée par ce drame, mais je le suis également en tant que magistrat, parce que j'ai choisi ce métier d'engagement pour protéger les plus vulnérables, dont les enfants. Et je comprends d'ailleurs la colère des Français, qui l'ont d'ailleurs manifestée de manière assez inédite par des manifestations devant
les tribunaux de France,
devant les tribunaux et le ministère de la Justice. Je comprends cette exaspération et je comprends qu'ils attendent des explications sur les circonstances qui ont conduit à ce drame, à la mort de cet enfant de 11 ans.
Y a-t-il des explications? C'est-à-dire, y a-t-il au fond des réponses à apporter? Ou est-ce que c'est tout un système qui s'est globalement effondré?
Nous devons la vérité aux Français et nous devons la regarder en face. Le garde des Sceaux a mandaté une inspection. Le rapport est attendu dans les 15 jours. Nous en tirerons ensuite les enseignements. Mais je pense que si nous voulons recréer le lien de confiance qui est très altéré entre les Français et la justice, nous devons effectivement rendre des comptes aux Français sur la manière dont ce dossier a été traité.
Quand vous dites nous devons rendre des comptes, ça veut dire que vous considérez qu'il y a peut-être des faillites du système, qu'il y a peut-être des responsabilités individuelles, que personne ne doit se défausser?
Il y a effectivement à regarder s'il y a des défaillances individuelles et s'il y a aussi des défaillances collectives. C'est-à-dire que dans ces affaires, on constate que très souvent, il y a à la fois les acteurs, pas simplement les magistrats, tous ceux qui ont concouru au traitement de ce dossier, et il y a également donc le contexte dans lequel ces affaires sont traitées et qui renvoient notamment à la question des moyens.
Il y a une gravité dans vos mots dès le début de cet entretien, je le sens bien. Bien sûr qu'on aura, comme vous le dites, les conclusions de l'enquête administrative, mais il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on a. Si on ne prend que quelques-unes des défaillances, plainte, évidemment, de la petite Rosa est au cœur de ce vertige qui nous prend une petite fille qui porte plainte, qui a le courage de parler, qui y va, qui parle d'une dizaine de viols, qui est auscultée par des médecins qui confirment ses dires. Une mère qui n'est informée de rien, qui va tous les lundis frapper à la porte des enquêteurs, qui la rabroue et qui lui disent « lâchez-nous ». Tout cela, et aujourd'hui, elle dit « si la plainte avait été prise au sérieux, sans doute, Liana n'aurait pas disparu ». Est-ce que vous pensez comme elle ?
Ce que je pense, c'est qu'il est important d'avoir également les explications. Ce sera le rôle de l'inspection. D'avoir les explications de ceux qui ont traité concrètement cette affaire. Que ce soit donc les magistrats du parquet, Toulouse-Auche, ou que ce soit les gendarmes qui se sont vus confier ce dossier. Il est important aussi d'entendre les explications des personnes concernées sur le pourquoi ont-ils traité ce dossier de cette manière-là. Et puis après, il faudra s'interroger beaucoup plus largement, passer de ce cas singulier au général, sur nos pratiques professionnelles dans le traitement des affaires de viol.
Aujourd'hui, avant même le drame Liana, est-ce qu'au quotidien, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, si régulièrement, depuis des semaines, des mois, vous vous disiez, on n'a pas les moyens, on ne va pas y arriver, est-ce que c'est un problème de moyens ? Est-ce qu'il y a un problème de moyens ?
Il y a un problème de moyens, ça n'est pas nouveau quand même dans la magistrature. Rappelez-vous les propos de cet ancien garde des Sceaux qui a parlé de clochardisation de la justice. Mais depuis, effectivement, la représentation nationale a fait des efforts, a voté donc des budgets qui ont permis l'augmentation, ne serait-ce que de 1500 magistrats supplémentaires sur le quinquennal. Et d'ailleurs, cette trajectoire d'augmentation des effectifs de magistrats doit se poursuivre dans les années à venir. Je pense que la représentation nationale, en tout cas les politiques que j'ai entendues sur les plateaux de télé, en ont pleinement conscience. Donc effectivement, il y a un problème de moyens. Mais ce matin, moi, c'est pas tellement la question des moyens qui ne vont pas arriver demain. Ma question, c'est comment, dans la situation dans laquelle je suis, je fais pour m'assurer qu'un tel drame ne puisse pas se reproduire. C'est ça mon urgence.
Vous faites comment ?
Alors, d'abord, nous allons faire ce que nous a demandé le garde des Sceaux. Alors, je suis à la cour d'appel de Paris.
Revoir les fameuses 70 000 plaintes, dit-il, ne partirez pas en vacances sans que ce soit fait ?
Alors, pour la cour d'appel de Paris, nous avons déjà immédiatement procédé à un recensement et nous avons environ, pour l'ensemble des 9 parquets qui sont placés sous ma responsabilité, j'ai environ 7000 procédures à examiner. Voilà.
Y arriverez-vous avant le 14 juillet, comme le demande le ministre ?
C'est pas la question d'y arriver ou pas. C'est une obligation que nous avons vis-à-vis des Français. Les parquets, donc les procureurs de la République, qui sont des gens très conscients de leurs responsabilités, vont organiser leurs équipes pour que ces procédures soient examinées. Mais, j'ai demandé aussi d'aller plus loin que ce que le garde nous a demandé de faire. Nous allons procéder non seulement au recensement des affaires que nous connaissons déjà, c'est-à-dire qui sont arrivées chez nous et qui sont reparties avec des instructions auprès des services d'enquête. Nous allons examiner aussi toutes les affaires dont nous ne sommes pas informés, c'est-à-dire la plainte qui vient d'être déposée, voilà, qui n'a pas encore commencé à être traitée par les services de police et de gendarmerie. Ça aussi, nous allons le faire. Mais nous allons aussi regarder ce qui se passe dans la maison de justice, chez nous. Est-ce que toutes les procédures qui nous ont été transmises sont enregistrées rapidement par un service qui s'appelle le bureau d'ordre avant d'être données aux magistrats ? Est-ce que les magistrats qui ont ces procédures les regardent en priorité, avec beaucoup de diligence et de rapidité ? On va aussi s'en assurer. Et puis je vais aller un tout petit peu plus loin encore. Je vais regarder le bout de la chaîne pour bien m'assurer que toutes les personnes qui ont été condamnées pour des faits d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle, bien que toutes ces personnes-là, leurs condamnations sont effectivement mises à exécution.
Que les peines sont appliquées.
Oui, et que notamment elles sont inscrites au casier judiciaire. Voilà.
Si vous dites ça, c'est quand même que vous avez un doute.
Ce n'est pas que j'ai un doute, je veux faire des vérifications. Je veux faire des vérifications, mais qui étaient déjà, si vous voulez, en réalité faites.
Mais dont vous sentez plus particulièrement l'urgence aujourd'hui. Ça pointe la question des peines, ça pointe la question de la responsabilité, de l'écoute des enfants, et aussi de l'efficacité. Au fond, c'est cette question-là, l'efficacité. Vous avez évoqué à l'instant la question de savoir s'ils sont, oui ou non, bien dans les fichiers. Moi, j'étais extrêmement frappée, j'en parle depuis deux jours, mais parce que ça m'a saisi d'effroi. J'interrogeais une des responsables du syndicat supérieur de la magistrature il y a trois jours sur le fait que cet homme, Jérôme Barella, était pourtant inscrit dans le fameux TAJ, le fichier. Mmh. Et elle me répondait, non, mais attendez, nous, c'est pas le TAJ, c'est Cassiopée. Alors moi, je découvrais qu'il y avait deux différents logiciels, un pour la police, un pour la justice. Et puis ensuite, elle me disait, mais de toute façon, Cassiopée, il marche un jour sur deux, et quand il marche, il n'est mis à jour que tous les six mois. Donc il n'est pas mis à jour en temps réel. Pardon, j'ai halluciné. Je me disais, on est en 2026, et on a des outils qui ne sont pas du tout à la hauteur.
Vous posez effectivement la question de ce que nous allons faire, non pas dans l'urgence, mais sur le long terme. Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre main aujourd'hui de magistrats que nous pouvons faire, et nous le faisons donc immédiatement. Et puis il y a des choses qui vont nécessiter du temps. Et notamment la question que vous soulignez à l'instant, qui est la question des fichiers, de la mise à jour de ces fichiers, de l'interconnexion aussi de ces fichiers, pour que lorsqu'un magistrat aujourd'hui est au téléphone, qu'un enquêteur lui parle d'une personne mise en cause dans une affaire d'agression sexuelle, il puisse immédiatement donc voir si cette personne
taper l'ordinateur quelque part et que
oui, a des procédures ailleurs que sur son ressort de compétence, a déjà été condamné déjà dans le TAJ. Voilà, c'est et ça implique effectivement du travail sur le long terme.
Est-ce que le problème, c'est des moyens, ou est-ce que le problème, c'est aussi une philosophie, une approche de la parole des enfants? Marie-Suzanne Lequeau, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes aujourd'hui procureur général près la Cour d'appel de Paris. Mais vous avez été procureur de la République à Auxerre, vous avez été à Évry, vous avez été à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il y avait, au fond, il y a eu un moment d'électrochoc dans la société française, c'était Outreau. On a presque l'impression que ça avait donné le résultat inverse, c'était que peut-être on avait trop écouté les enfants, que ça nous avait conduit à une forme de diatribe populaire. Est-ce que ça a en quelque sorte intimidé, je vous pose la question d'Outreau, comme un moment qui aurait peut-être en quelque sorte intimidé ensuite les magistrats à aller vers l'écoute des enfants? Est-ce que vous avez cette affaire souvent encore en tête?
Dans mon parcours professionnel, j'ai d'abord été marquée par l'affaire Émile Louis. Je suis procureur de la République à Auxerre. Émile Louis, c'est un grand prédateur sexuel qui s'en prend à des jeunes femmes handicapées, qui viole et qui tue. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas cette caisse de résonance, on en parlera. Pas tellement. Après, il y aura ce qui a été pour nous une affaire terrible, qui est effectivement l'affaire d'Outreau. Ça a été, on a été marqué, ma génération de magistrats a été marquée au fer rouge par ce dossier. Et on en a tiré un certain nombre d'enseignements, parce qu'on a beaucoup progressé dans le recueil de la parole des enfants. On a créé des salles qu'on appelait Mélanie, donc avec des gens, des enquêteurs spécialisés dans l'écoute
des enfants.
On a suivi nous-mêmes des formations dans le décryptage de la parole des enfants. On s'est perfectionné dans les enquêtes, dans les actes d'enquête à mener. Tout ça, nous l'avons fait. Et personne n'a oublié l'affaire d'Outreau. C'est encore un marqueur terrible pour un certain nombre de magistrats. J'ai finalement regardé de très près ce qui s'était passé dans cette affaire, puisque j'étais à l'inspection générale de la justice et j'ai fait partie de cette mission. Et ensuite, j'ai été nommée procureure générale à Douai. Et lorsque je suis allée à Boulogne-sur-Mer, qui était une juridiction dans mon ressort de compétences, les gens parlaient encore que de cette affaire. On a tous été marqués au fer rouge par ça. Et la génération... Je suis certaine que cette jeune génération de magistrats là, qui débute, va être marquée également par l'affaire Liana.
Marie-Suzanne Lequeo, la question des sanctions, on parlait de la question des sanctions des magistrats, mais la question du pédocriminel. Est-ce qu'on est aussi face à un des derniers tabous? Je recevais ce matin Jérôme Fourquet, qui analyse la société française et qui disait, on est peut-être dernière, le dernier tabou de la société française, les agressions sexuelles contre les enfants, l'inceste, la famille, les enfants, la protection des plus vulnérables. Mais il rappelait aussi l'ampleur inouïe. On parle de 3 enfants par classe. Mmh. Est-ce que vous imaginiez, vous, et est-ce que face à cette ampleur énorme, ou peut-être les Français aussi doivent se regarder en face en se disant, au fond, ça veut dire qu'il y a des pédocriminels partout. Est-ce qu'on a les moyens d'y faire face aussi à cette question-là, à l'ampleur?
On découvre effectivement l'ampleur du phénomène. Enfin, les Français, avec un tel chiffre, effectivement, se disent que c'est un vrai problème de société. Mais comment en est-on arrivé là? Parce que vous parlez de pédocriminels, c'est la figure extérieure à la famille. Mais nous aussi, on a beaucoup d'affaires où l'agresseur est dans la famille. Le père, le frère, l'ami de la famille. Que c'est la cellule familiale qui dysfonctionne au point d'en arriver à la commission de crimes sur des enfants. C'est ça la réalité que nous traitons depuis des années. Les magistrats qui sont tous les jours au téléphone ou qui lisent des procédures, c'est à ça qu'ils sont confrontés. Eux, ils ne découvrent pas cette réalité.
Avec cette question, qui est aussi désormais la question de la peine, et au fond de la rédemption, c'est-à-dire le pédocriminel peut-il, une fois qu'il a purgé sa peine, se réinsérer dans la société? Certains pays, l'Angleterre, la Pologne, les États-Unis, ont décidé de rendre public les noms des pédocriminels, alors pas forcément de manière générale, mais qu'on puisse aller demander si dans l'école de son enfant, par exemple, en contact avec son enfant, il y a un pédocriminel condamné. Comment vous réagissez à ça?
C'est d'abord une question politique. C'est-à-dire, c'est une vision de la société que d'afficher le nom de gens qui ont été condamnés définitivement, avec les risques que cela d'ailleurs comporte pour eux aussi en termes de
d'éventuels lynchages ou
pour eux et aussi pour leur famille. Moi, j'ose croire encore que une peine prononcée dans ce type d'affaire peut-être changer la trajectoire de ces criminels.
Mais peut-on prendre
criminels
le risque? Je vous pose cette question parce que c'est au fond où est-ce qu'on met le curseur aussi dans la protection de l'enfant. Lorsque Gérald Darmanin dit ils sont incurables.
Je ne peux pas répondre sur le fait qu'ils soient incurables. Ou pas, c'est une question qui ne relève pas de mon champ
mais
de compétences.
Ça tire ensuite la question de la perpétuité réelle qui a été évoquée par Sébastien Lecornu.
C'est à la représentation nationale de se prononcer. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que les magistrats, eux, ils appliquent ce que les députés et les sénateurs ont voté comme loi. Et c'est eux qui ont un projet politique pour la justice dans ce pays.
Hier, Gérald Darmanin a annoncé retirer le plaidé coupable criminel de son projet de loi de réforme de la justice. Comment vous réagissez?
Je le regrette beaucoup.
Ah bon?
Je regrette, je le dis parce que j'étais en faveur de l'instauration de ce plaidé coupable en matière criminelle. Je pense que les garanties qui avaient été apportées donc pour notamment les victimes dans la discussion sur cette peine étaient de nature à pouvoir avoir un procès donc équilibré. La représentation nationale n'en a pas été convaincue. Et donc ce ne sera pas voté aujourd'hui, mais j'espère, je le dis aussi, que nous pourrons rediscuter de cette question dans un autre temps.
Comme une sorte de porte de sortie aussi de l'embolie de la justice?
Oui, mais l'embolie de la justice, c'est pas la question, c'est une question centrale, mais c'est pas au détriment non plus du droit des accusés, des victimes.
Est-ce
c'est pas rendre la justice n'importe comment.
Est-ce que certaines considérations rentrent en compte quand vous prononcez une décision? Est-ce que, par exemple, le fait de savoir s'il reste des places de prison ou pas, en l'occurrence la plupart du temps, ça rentre en ligne de compte? Est-ce que quand vous prononcez une peine, vous interdisez parfois de prononcer une peine de prison alors que vous estimez que ce serait nécessaire parce que vous savez que derrière il n'y a pas de place.
Je ne peux pas répondre à la place de mes collègues du siège, je sais qui eux prononcent une peine. Moi, je ne fais que demander, proposer quelque chose. Et je peux vous dire que si les faits sont très graves, tout en ayant quand même en tête la surpopulation carcérale à laquelle nous sommes confrontés, dans des affaires très graves, le fait de la question de la surpopulation carcérale n'est pas un élément qui nous guide dans le choix d'une peine dès lors que les faits sont notamment des faits d'atteinte aux personnes.
Dans moins d'un mois, décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN. C'est votre cour qui rendra cette décision. Est-ce que les débats se poursuivent? Est-ce que c'est figé? Est-ce que c'est d'ailleurs décidé? Est-ce que tout est ouvert?
C'est terminé, le procès est terminé. Désormais, il appartient au magistrat qui composait la cour de rendre leur décision. Moi, j'ai fait valoir au nom de la société ce que j'estimais demander dans cette affaire. Maintenant, c'est au magistrat du siège d'être convaincu ou pas. Après avoir entendu donc évidemment les avocats tant des parties civiles d'ailleurs que des prévenus, c'est à eux de décider quelle est la peine qui leur paraît appropriée s'ils sont déclarés coupables.
Et leur décision n'est pas politique.
Leur décision n'est pas politique. Elle a des conséquences politiques, ça c'est évident, mais elle n'est pas politique.
Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Marie-Suzanne Lequeo, je rappelle que vous êtes une des plus hautes magistrates de France aujourd'hui, procureure générale près la cour d'appel de Paris. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, vous êtes sur RMC, il est 8h48 et c'est le jour J. C'est aujourd'hui que démarre la Coupe du Monde, cérémonie d'ouverture, arrivée des Bleus et Coupe du Monde du décalage horaire. C'est le programme dans une minute, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h52, le début de la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui. Et vous ne raterez rien sur RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans un instant, vous nous donnez toutes les infos concernant les Bleus qui ont atterri à Boston hier soir. Le premier match, c'est donc ce soir à 21h, Mexique, Afrique du Sud. Un horaire parfait pour nous en France. Alors attention, ce ne sera pas le cas pour l'ensemble des matchs. Il y a des matchs qui auront lieu à 2, 3, voire 4 heures du matin. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour.
Pour les fans de foot, ce sera toute une organisation.
Oui, programmez des alarmes sur vos téléphones. Les Bleus sont plutôt chanceux avec deux matchs à 21h et un à 23h pendant les phases de poule. Mais certaines équipes ne jouent jamais avant minuit heure française. Et je suis allée dans un club de foot à Paris, exercice de négociation pour les enfants. Et certains parents sont plus flexibles que d'autres.
Le premier match, il me semble qu'il est aux alentours 20h-21h. Je pense que là, on peut pousser jusqu'aux alentours de 23h pour un match comme l'équipe de France. On peut y aller, oui, il n'y a pas de raison. C'est quand même un événement et il faut en profiter à fond. Là, mon fils a 8 ans, je pense que je veux qu'il s'en souvienne.
De toute manière, bientôt, ça va être les vacances. C'est fait pour profiter.
Ouais, mais tu peux regarder les matchs. Il y a les huitièmes, il y a les quarts, il y a les demi, il y a les...
Toi, tu vas avoir le droit?
Bah oui, m'en fous. Même si à 3h du matin, je regarde.
Alors, on va vérifier auprès du père de Yamine. Il est en tribune.
Ah non, c'est pas vrai.
Mais tu m'as dit ça?
C'est à l'école. C'est impossible tous les matchs.
Non, mais Algérie. Ouais.
Même Algérie, Yamine, moi, je travaille.
Ben oui, mais c'est à 3h du matin.
Moi, je commence à travailler à 5h, 6h du matin, je peux pas.
Tu mets la télé, je regarde, c'est
tout. À côté, Faed, 8 ans, résume.
Ça, c'est pas 3, 4, 5 heures. Personne n'est réveillé.
Et Asdine, un autre papa, regrette.
La sensation de la Coupe du Monde, c'est on est là, on est en train de crier à chaque occasion, à chaque but. Et là, c'est pas possible. Si nous, on a du courage de se réveiller, nos voisins, peut-être, ils auront pas le même courage. On n'a pas envie de les réveiller.
Ça, c'est pas l'idéal, mais il y a quand même beaucoup de détermination.
Oui, un jeune de 15 ans me répétait qu'il était préparé physiquement et mentalement pour regarder toute la compétition. Question de gestion de la fatigue.
Préparation physique du supporter. Ouais.
Bien sûr, les coachs aussi ont pris leur disposition. Ils se lèveront pour l'équipe de France et la sélection de leur pays d'origine.
Moi, le tableau des rencontres, il est en favori dans mon téléphone. Donc, je suis en train de voir les horaires, j'ai juste envie de pleurer. Tous les matchs que je veux voir de la Turquie sont très tôt. Le premier match, c'est dimanche. Donc c'est à 6h. Toi, c'est quoi ton premier match?
Moi, c'est 3h, Maroc. Moi, c'est une obligation.
Oh, ça va. C'est cool. C'est léger. Brésil, Maroc, minuit. Ouais, c'est allez, mec, tu fais ton dîner, tu vas prendre un petit verre, tu rentres à la maison.
Tranquille, voilà. Tu te couches,
ouais. Allez, on va manger du football pendant un mois.
Le club compte organiser des diffusions de certains matchs pour réunir riverains, parents et enfants. Ça devrait commencer mardi pour France-Sénégal à 21h. Ça va encore.
Et puis alors attendez, il y en a certains qui doivent aussi s'organiser avec le boulot.
Oui, j'ai parlé notamment avec Denis qui travaille dans l'aide sociale à l'enfance, parfois de nuit. La Coupe du Monde, il devrait la regarder surtout avec les jeunes qui l'encadrent.
Je décale mes horaires. Par exemple, si je suis du matin, je vais passer de soirée de façon à leur mettre les matchs et les jeunes, ils sont contents. Comme dit mon responsable, mon chef de service, c'est joindre l'utile à l'agréable en fait. Moi, à la Ligue des Champions, par exemple, il y a pas mal du Paris Saint-Germain, match du Paris Saint-Germain que j'ai pu diffuser aux jeunes et que j'ai vu alors que je travaillais quoi. Je sais que je vais pas beaucoup dormir. Je m'adapte et puis je récupérerai ça sur d'autres jours où j'ai rien de prévu.
Alors évidemment, il ne s'agit pas de regarder avec les jeunes des matchs à 3h du matin comme ce quart de finale que pourrait jouer la France. Là, Denis allumera sa télé avant d'aller au travail. Il est membre du groupe de supporters Les Irrésistibles Français, un habitué des nuits courtes.
Alors merci Marion. Les matchs à suivre, tous les matchs en direct sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Je pense notamment au match de 4h du matin demain à suivre dans le Morning RMC, s'il vous plaît.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. La cérémonie d'ouverture et le premier match, donc ce soir à Mexico City.
Shakira, we are ready.
Alors, on reconnaît évidemment Kylian Mbappé qui interpelle Shakira, reine de cette cérémonie d'ouverture. Il y aura aussi évidemment des artistes mexicains. Mexico, para el mundo. Et puis la musique de la Coupe du Monde, c'est aussi celle de David Guetta. DNA More Than a Game avec notamment Andrea Bocelli, je suis obligée de le dire.
Eh oui, ça fera au moins un Italien à la Coupe du Monde. Voilà.
Allez, c'est, ça y est, c'est fait.
La cérémonie d'ouverture, c'est dans le mythique stade Azteca de Mexico.
C'est le premier stade à avoir accueilli deux finales de Coupe du Monde. En 1970, le sacre du Brésil de Pelé et en 1986, l'Argentine de Maradona. C'est aussi dans ce stade que Diego Maradona a fait sa fameuse main Dieu contre l'Angleterre.
Il l'a mis de la main.
Alors, c'est qui ?
Captain Larqué, évidemment, ouais. Bien sûr. Il a aussi marqué le but du siècle dans ce stade, en remontant tout le terrain. On parle donc d'un stade légendaire.
Un stade qui accueille le premier match entre le Mexique et l'Afrique du Sud.
Moi, j'aime pas trop cette affiche d'ouverture. C'est la même qu'en 2010. Oui, les Bleus de Naïsta, le bus, tout ça, on revient pas là-dessus. Les Sud-Africains ont souvent les honneurs de l'ouverture. C'était aussi le cas en 1998. France, Afrique du Sud à Marseille, 3-0.
Pour
les Bleus. Voilà, on garde ça.
Les Bleus qui sont arrivés à Boston hier.
Oui, ça y est, ils sont bien installés aujourd'hui. Premier entraînement en public, des panneaux « Allez les Bleus » autour de leur terrain. Des bâches noires pour cacher tout ça. De toute façon, il n'y a pas grand monde puisque les étudiants sont en vacances.
Alors, l'équipe de France est arrivée avec moins de bagages, disons-le, que la sélection de Norvège.
La Norvège, dernier adversaire des Bleus en phase de poule le 26 juin, est venue avec, dans ses bagages, tenez-vous bien, 300 kilos de poisson, 116 kilos de fromage, ça mange un footballeur norvégien. On peut pas trop non plus leur en vouloir de pas avoir une confiance aveugle dans la nourriture américaine. Et puis, en fait, avec des contrôleurs qui font tant de zèle aux douanes, un peu de poisson, un peu de fromage, ça les éloigne. Ouais.
Le hareng qui doit sentir fort. Merci Virginie Fulpin.
Et en Coupe du Monde, ça mange beaucoup.
Erling Haaland, je pense qu'il mange quelques kilos de poisson. Alain, c'est vrai. Juste un mot avant de vous passer la parole, Alain. La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC, vous le savez. Et depuis 58 minutes, la web radio 100% Coupe du Monde à retrouver sur l'application et le site RMC. Dans un instant, les GG.
Et on lance pas la prime de match aussi. Hein.
Ah oui, il y a la prime. Vous aussi, vous faites gagner de l'argent.
Le grand jeu, 30 000 euros à gagner et 500 euros en plus à chaque but. Vous vous inscrivez en envoyant but par SMS au 732-16 et vous pouvez être appelé à tout moment. Les grandes gueules, dans un instant, bien sûr. En direct sur RMC et RMC Story, on posera la question de savoir s'il faut un fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ouvert au grand public. Est-ce que la justice n'est pas un peu le bouc émissaire facile pour les responsables politiques? Et puis Patrick Bruel, il est placé sous contrôle judiciaire, mais il peut quand même faire des concerts. Venez en discuter au 32-16.